autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Une nuit de mars 1938, le génial physicien italien Ettore Majorana se volatilise en mer entre Naples et Palerme. Il avait 31 ans et son corps n'a jamais été retrouvé. Trois quarts de siècle après sa disparition, le mystère n'est toujours pas élucidé, laissant la place aux hypothèses les plus fantaisistes. Qui était ce personnage singulier né en Sicile en 1906? Comment a-t-il révolutionné les travaux sur les particules élémentaires, les forces nucléaires et l'antimatière? A-t-il pu anticiper la fabrication de la bombe atomique? Était-il en avance sur son temps? Quelles sont les applications actuelles de ses travaux? La disparition de l'homme a-t-elle masqué l'œuvre du scientifique? Autour de la question « Comment percer le mystère Majorana ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Vous êtes physicien au CEA, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le Monde selon Étienne Klein, vient de paraître chez Flammarion. Et vous avez publié en 2013 aux éditions des Équateurs, En cherchant Majorana, le physicien absolu, récit très littéraire de votre enquête sur la disparition du physicien italien, mais aussi un travail en profondeur sur ses travaux scientifiques. Alors Majorana, personnage éminemment romanesque, il existe beaucoup d'hypothèses sur sa disparition. Écoutez le philosophe des sciences Michel Serres, qui, comme vous, est fasciné par Majorana.
Ça a été un des héros, grand héros de ma jeunesse, parce que j'adorais ce type d'histoire. On a fait des recherches et il a disparu. Et il y a un précepte de la police qui dit les cadavres, on les retrouve toujours, c'est les vivants qui disparaissent. Et mon hypothèse, c'est qu'il est devenu simplement le frère Bernard ou le père Paul dans un monastère du fond de la Sicile pour disparaître complètement et garder l'anonymat jusque dans la tombe.
Les cadavres, on les retrouve toujours, c'est les vivants qui disparaissent, Étienne Klein.
Oui, en effet, on n'a jamais retrouvé son corps. Alors vous dites qu'il s'est volatilisé en mer entre Naples et Palerme, ce qui sous-entend qu'il se serait jeté à l'eau.
En tout cas, c'est là qu'on a perdu sa trace.
Non, parce qu'il est arrivé à Palerme.
Oui.
Il a dit dans une lettre qu'il allait disparaître, qu'il allait prendre le bateau pour Palerme. Il a en effet pris le bateau. C'est un bateau qui partait à 22 heures de Palerme, de Naples pour aller à Palerme. Et il disait à celui qui a reçu la lettre, qui était le directeur de l'Institut de physique de Naples, je penserai à toi jusqu'à 11 heures du soir et si possible après. Alors le bateau partant à 10h du soir, 11h du soir, il est encore dans la baie de Naples. Et il va voyager toute la nuit pour arriver à Palerme. Et on sait qu'à Palerme, il a écrit une lettre disant qu'il allait rentrer à Naples. Et donc, il s'est pas suicidé, il s'est pas jeté à l'eau.
Ça, on en est sûr.
Pour autant qu'on puisse savoir qu'il a pris le bateau. Il y a des gens qui disent qu'il l'a jamais pris, que les lettres ont été envoyées de Palerme par quelqu'un d'autre que lui, c'est lui qui les aurait écrites, mais d'autres qui les auraient envoyées. Bon, bref, c'est pas clair. C'est-à-dire que c'est ça le problème de la disparition de Majorana, c'est qu'à chaque fois qu'on émet une hypothèse, qu'on l'étudie, qu'on essaie de la cautionner par des témoignages ou des archives ou des interprétations, on s'aperçoit qu'elle mène à une contradiction. Du coup, on prend une autre hypothèse qui elle-même mène à une contradiction. Et on arrive à ce constat terrible qui est qu'il est certain que Majorana a disparu. Et en même temps, il est impossible qu'il l'ait fait. Donc, on doit superposer comme ça différentes possibilités. La thèse du monastère qu'évoque Michel Serres a été plusieurs fois évoquée, notamment par Leonardo Sciascia, ce grand écrivain sicilien qui a écrit une sorte de romance sur Majorana dans
la disparition de Majorana.
Voilà, qui s'appelle La disparition de Majorana. Maintenant, comme le Vatican n'a toujours pas ouvert ses archives, on ne peut pas la vérifier.
Alors, votre fascination, on pourrait presque dire votre obsession pour Majorana remonte à de très nombreuses années.
Je suis très vieux.
En tout cas, vous avez entendu parler de lui pour la première fois quand vous étiez au CERN à Genève, le grand laboratoire qui étudie la physique des particules. Vous étiez alors en stage. Et à cet endroit-là, vous avez suivi les cours de Victor Weisskopf, qui a connu les pères de la physique quantique dans les années 20. Vous décrivez de lui que c'était une légende sur pattes. Écoutez sa voix, il était interviewé en anglais à la fin de sa vie.
It was One of the most exciting times in the history of physics, I would almost say.
C'était l'une des époques les plus excitantes de l'histoire de la physique. Bien sûr, je suis arrivé un peu tard. Le grand événement avait eu lieu au milieu des années 20, quand la mécanique quantique a été formulée, inventée et découverte. Et cela s'est passé dans plusieurs endroits, à Copenhague, en Allemagne, en Angleterre.
And I came into physics in 28 as a graduate student to Göttingen.
J'ai commencé à étudier la physique en 1928 à Göttingen, et à cette époque, la mécanique quantique était déjà là, même si de nombreuses applications et extensions nécessaires n'existaient pas encore. Mais je me sentais un peu comme Alexandre qui a dit à son père, le roi Philippe, « Tu as déjà conquis le monde, que va-t-il me rester ?» Mais il restait énormément de choses, c'était une époque très différente. Les physiciens étaient bien moins nombreux qu'aujourd'hui, et ils étaient surtout moins nombreux à travailler sur la frontière que constituait la physique atomique.
And especially fewer physicists who were working on that frontier of atomic physics.
Réaction, Étienne Klein, c'est vraiment grâce à lui.
Je suis très ému d'entendre la voix de Victor Weisskopf. En effet, je l'ai connu dans les années 80. J'étais étudiant au CERN et lui était le professeur. Un homme de grande stature, au sens propre et au sens figuré, qui parlait 7 langues, je crois, et qui nous impressionnait beaucoup parce qu'il avait en effet connu les pères fondateurs de la mécanique quantique. Einstein, il a été le thésard de Wolfgang Pauli, c'est quand même pas rien. Ensuite, il a travaillé au projet Manhattan de la bombe atomique, il a connu Feynman, etc. Il a été directeur du CERN par la suite. Enfin, c'était un personnage qui avait une biographie qui recouvrait pratiquement toute cette période incroyable de formulation de cette nouvelle physique, et après la guerre, de la constitution de grands laboratoires pour faire de la physique des particules. Et je crois que c'est lui qui, pour la première fois, nous a parlé de Majorana. Cela dit, dans mon souvenir, c'était autre chose.
Alors voilà, dans votre souvenir, c'est très très amusant. Vous pensez voir une rue au CERN qui porte le nom de Majorana, et en réalité, c'est une rue fantôme.
Oui, j'ai toujours cru que j'avais rencontré Majorana pour la première fois par le biais d'un panneau indiquant le nom d'une rue au CERN. Toutes les rues du CERN portent des noms de grands physiciens. Donc je connaissais tous les noms que je voyais, Schrödinger, Pauli, Einstein. Et un jour, je tombe sur la rue Majorana. Et donc le prénom, Ettore Majorana, le nom, une parenthèse pour la date de naissance, 1906, un tiret, 1938 et un point d'interrogation. Alors ça m'avait intrigué d'une part parce que je ne connaissais pas ce nom, et d'autre part parce qu'il y avait ce point d'interrogation. Donc j'ai interrogé des physiciens, et l'un d'entre eux, un Italien, qui m'a dit, mais Majorana, c'était un physicien surgénial qui travaillait avec Fermi, qui a disparu, personne ne sait ce qu'il est devenu. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à lui. Et quand j'ai essayé de retrouver la rue, pour la photographier, enfin, photographier le panneau et mettre une photo dans le livre, eh bien, j'ai constaté qu'elle n'existait pas. J'ai pensé qu'elle avait été débaptisée. Je me suis renseigné, j'ai enquêté. En fait, non, elle n'a jamais existé. Donc, j'ai fabriqué un faux souvenir. J'ai découvert l'existence d'un homme qui a disparu grâce à un panneau qui n'a jamais existé.
Alors, on va voir comment vous avez mené l'enquête pour essayer de retrouver les traces de Majorana. Étienne Klein, on va aussi essayer de brosser le portrait de cet homme singulier juste après Gian Maria Testa, Per accompagnarti sur RFI.
Autour de la question, Sophie Joubert.
Accompagnarti, ti accompagnerei giù fino in fondo a questo nostro strano giorno, anche se tu non mi ascolti e ti confondo. Per accompagnarti, sì, ti accompagnerei per quella specie di segreto che hai negli occhi. Ma intanto tu sei come sei, chissà se vuoi che resti. Pavimenti, chissà se quando sei partita ti ricordavi già di me, chissà se tutto quel che è stato vero in fondo ancora adesso vero.
Testa per accompagnarti sur RFI. Etienne Klein, vous dites dans votre livre En cherchant Majorana qu'il est une comète à la frontière des mondes sublunaires et supralunaires. Comment cet être si singulier s'intéresse-t-il à la physique ?
En fait, comme beaucoup de gens doués en mathématiques de sa génération, il fait des études d'ingénieur. Et dans l'école qu'il fréquente à Rome, il a un très bon ami qui s'appelle Emilio Segre, qui, comme lui, se destine à devenir ingénieur. Et cet Emilio Segre va écouter un soir une conférence à Rome d'Enrico Fermi. Enrico Fermi est un peu plus âgé qu'eux, c'est une gloire montante en Italie, c'est un physicien extrêmement doué, à la fois sur le plan théorique et sur le plan expérimental. Il s'est formé à l'étranger, il est allé en Allemagne, à Göttingen et ailleurs. Il est allé au Danemark, à Copenhague, où il a rencontré Niels Bohr. Donc il s'est formé à la physique quantique, parce que l'Italie avait très peu contribué à cette nouvelle physique. Il se forme à l'étranger et revient en Italie avec comme mission de faire en sorte que l'Italie rattrape son retard. Et donc il va monter un groupe avec la bénédiction de l'université, des hommes politiques, qui s'installe via Panisperna, à Rome, et il recrute des jeunes gens auxquels il fait subir toutes sortes de tests. Et Segre est tellement fasciné par cette conférence de Fermi, qui portait sur la relativité, qu'il décide d'interrompre ses études d'ingénieur pour faire de la physique. Donc Fermi va le tester pendant des mois, il l'emmène en montagne, parce que les tests n'étaient pas seulement intellectuels, ils étaient aussi physiques, psychologiques. Et au bout de quelques mois, Segre est accepté dans le groupe de Fermi. Et une fois qu'il est accepté, il parle à Fermi d'un de ses amis, Majorana, dont il dit que Fermi aurait tout intérêt à le rencontrer parce que, dit-il, c'est un génie.
Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Comment Majorana va-t-il intégrer ce fameux groupe des ragazzi de la Via Panisperna ?
C'est un épisode qui a été raconté par beaucoup de témoins, donc on peut considérer que ça s'est passé comme c'est raconté. Fermi convoque Majorana. Majorana arrive en face de Fermi et lui demande sur quoi il travaille. Et à ce moment-là, Fermi travaillait depuis plusieurs semaines à la résolution d'un problème qui porte le nom de potentiel universel de Fermi. En gros, il voulait connaître les états d'énergie d'un électron dans un atome. Et il avait trouvé une méthode qui permettait d'obtenir une équation qu'il cherchait à résoudre avec une machine à calculer mécanique comme il en existait à l'époque en Italie. Majorana regarde, s'intéresse aux équations que Fermi a écrites sur le bout de papier, puis il tourne les talons, il s'en va, sans dire au revoir, ni dire ses intentions. Et le lendemain, il réapparaît. Il demande à Fermi de lui remontrer les résultats des calculs qu'il avait fait lui-même, sort de sa poche un paquet de cigarettes sur lequel il avait écrit tout un tableau de nombres, et vérifie que les nombres que Fermi avait calculés sont les bons, puisque lui a tout calculé, tout le spectre, tout ce potentiel, il en a calculé toutes les valeurs. Et Fermi se rend compte que ce jeune homme est évidemment beaucoup plus fort que lui, un peu arrogant, un peu sûr de lui sans doute, mais il décide de l'embaucher en quelque sorte, sans lui faire passer aucun des tests qu'il imposait aux autres membres du groupe. Et voilà comment Majorana entre dans le domaine de la physique. Il suit les cours que Fermi donne toutes les semaines aux jeunes gens qu'il a recrutés. Évidemment, il est plus fort que Fermi, il comprend tout. Il est même humilié de devoir subir
les cours,
les explications que donne Fermi. Donc il a un caractère très difficile. Il est caustique, il est critique vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. De sorte que dans ce groupe où Fermi avait imposé une hiérarchie qui était copiée sur celle de l'Église catholique, bon, Fermi c'était le pape.
Le pape, voilà.
Et Majorana, parce qu'il était... le gardien d'une espèce de dogme, s'est vite vu appelé le grand inquisiteur.
Mais est-ce qu'on a là la marque d'un authentique génie, Étienne Klein ?
Écoutez, moi je me passionne pour cette période parce que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est la période où une nouvelle physique se met sur pied en Europe, grâce à des jeunes gens qui sont des génies, qui discutent ensemble et qui mettent sur pied une physique qui s'appuie sur des concepts qui ne sont pas les concepts dont on a l'habitude en physique classique ou bien par la fréquentation du monde empirique. Donc c'est des gens qui sont de véritables créateurs, et les noms on les connaît, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac, etc. Mais Majorana, lui, il a une façon de travailler qu'on peut voir dans les milliers de pages de manuscrits qu'il a laissés.
Sont ces manuscrits aujourd'hui ?
Ils sont à Pise.
Donc vous les avez consultés ?
Je les ai consultés, il y a des milliers de pages, et c'est une espèce d'écriture régulière, pas trop de ratures, et ce type fait des découvertes ou des calculs comme si ça coulait tout seul, il n'y a pas de moment d'hésitation, on n'a même pas l'impression qu'il fait de la recherche, ça coule au travers de lui. Et donc, c'est pas un génie comme les autres. L'italien du CERN qui m'avait parlé de Majorana pour la première fois l'avait qualifié de surgénie. Surgénie, ça veut dire qu'il y a une espèce de mystère lié à cette créativité. Les autres ont tous expliqué comment ils avaient fait leur découverte. Ils ont écrit des autobiographies, ils ont expliqué comment les idées leur étaient venues. Dans le cas de Majorana, personnellement, bien qu'ayant beaucoup travaillé le sujet, je suis pas capable de vous dire par où ça passe quand ça passe, quoi.
Mais est-ce que, par exemple, il a une plus grande capacité d'abstraction que les autres? Alors, vous l'avez dit, il calcule très très vite, mais c'est pas seulement ça qui le distingue des autres.
C'est très simplement un type qui est fort en calcul mental, il est conceptuellement fort. C'est-à-dire que il a une aisance en mathématiques qui est peut-être unique pour l'époque. Vous savez à quel point les autres physiciens comme Heisenberg, etc., étaient obligés de redécouvrir les mathématiques dont ils avaient besoin. Majorana, il a tout dans la tête. Il est l'un des premiers à comprendre que le concept de symétrie va être très utile en physique théorique pour décrire les interactions. Mais il est le seul à penser cela quasiment à l'époque, et du coup, il est mal compris par les autres.
Dirac, quand même.
Dirac aussi. Il y avait Wigner et puis il y avait Weyl en Allemagne. Mais Majorana écrit en tout cas des équations qui sont un peu en avance sur leur temps, de sorte que ses contemporains auront du mal à comprendre ce qu'il fait. Évidemment, ils ne doutent pas qu'il est génial, mais ils ont du mal à comprendre ce qu'il fait, de sorte qu'il va être en quelque sorte marginalisé par d'une part son caractère qui est difficile, et d'autre part par la difficulté mathématique des articles qu'il écrit.
Et c'est plus tard que toute la portée de ses travaux va être redécouverte. Alors, on va voir ce qui se passe pour Majorana dans les années 30. On va parler de la découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric Joliot-Curie. On va voir également s'il a pu anticiper la bombe atomique, ce qui paraît assez peu probable. Étienne Klein, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les informations.
De la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Comment percer le mystère Majorana ?» avec Étienne Klein, physicien au CEA et auteur du livre « En cherchant Majorana, le physicien absolu » paru aux éditions des Équateurs et chez Folio Gallimard pour l'édition de poche. Alors nous parlions juste avant les informations de Paul Dirac à propos de la symétrie, Étienne Klein. Écoutez un extrait de sa conférence sur la mécanique quantique prononcée à Lindau en Bavière en 1965.
Quantum mechanics was discovered 40 years ago by Heisenberg.
La mécanique quantique a été découverte il y a 40 ans par Heisenberg. Très peu de temps après, elle a été découverte une nouvelle fois, indépendamment sous une forme assez différente par Schrödinger. Heisenberg et Schrödinger nous ont donné une formidable théorie. Beaucoup de gens s'en sont emparés et ont travaillé à la développer. J'ai été l'un d'eux. Nous avons développé rapidement le sujet et l'avons appliqué à de nombreux problèmes, avec un grand succès. Cette théorie a été appliquée à l'atome, au spectre moléculaire et à des simples processus de diffusion et ont donné des résultats en bonne intelligence avec l'expérimentation. Pendant quelques années, tout est allé très bien. Puis des difficultés sont apparues. On a appliqué la mécanique quantique à des problèmes plus compliqués. On a essayé de l'appliquer en accord avec la théorie de la relativité, selon laquelle les particules ne peuvent interagir directement entre elles, mais seulement au moyen d'un champ.
Étienne Klein, comment Ettore Majorana se situe-t-il au milieu de tous ces pères de la mécanique quantique, donc Paul Dirac, on vient d'entendre, Heisenberg ou encore Schrödinger?
Mais il est exactement comme Dirac, en fait, il vient juste après. Parce que les vrais fondateurs de la physique quantique, je suis très ému, là encore, d'entendre Dirac, qui est un homme qui parlait très très peu dans la conversation, mais là, il a l'air d'avoir une voix forte et d'être sûr de lui, c'est très impressionnant de l'entendre. Bien, les vrais pères fondateurs, c'est en effet Heisenberg et Schrödinger en 1925, et Dirac, il arrive plutôt juste après, en 1928, lorsque, comme il le dit lui-même, il faut trouver un pont entre la physique quantique, qui décrit les particules, et puis la relativité, qui décrit les objets qui vont très vite. Donc, comme les particules vont très vite, il faut marier ces deux théories, et Dirac va proposer une nouvelle équation qui porte son nom, et Majorana va s'intéresser au même problème. Simplement, il va le résoudre d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que quand il fait ce mariage entre la physique quantique et la théorie de la relativité, Dirac trouve une équation dont certaines solutions l'intriguent. Et en fait, après quelques années de travail, il va comprendre qu'elles correspondent à des antiparticules. C'est-à-dire à des particules de même masse que celles que nous connaissons, mais ayant une charge électrique opposée. Donc il prédit l'existence de l'antimatière en 1930. Et cette antimatière va être découverte peu de temps après dans le rayonnement cosmique par un physicien américain qui s'appelle Anderson. Et cette découverte du positron, donc l'antiparticule de l'électron, va faire que les physiciens vont avoir confiance dans l'équation de Dirac, puisqu'elle a permis de prédire ce nouvel objet physique qu'est le positron. Et Majorana, lui, reprend les mêmes idées, mais va écrire une équation un peu plus générale, un peu plus symétrique que celle de Dirac. Et elle a pour caractéristique de permettre l'existence de particules neutres, donc sans charge électrique, qui seraient identiques à leurs propres antiparticules, ce que l'équation de Dirac ne permet pas. Et cette piste-là a été négligée pendant très longtemps, et aujourd'hui elle revient en force parce que on se pose cette question à propos du neutrino. Vous savez, le neutrino, voilà, c'est une particule
fantôme
très légère qui interagit très peu avec la matière. Mais on ne sait toujours pas si elle est identique ou non à sa propre antiparticule. Si c'est le cas, ça voudrait dire que Majorana avait raison. Et si ça n'est pas le cas, ça voudrait dire que s'agissant du neutrino au moins, c'est Dirac qui avait raison. Alors ça pourrait sembler être une question abstraite, sans beaucoup d'intérêt théorique. Et en réalité, c'est une question fondamentale. Parce que si des particules telles que celles que Majorana avait envisagées existent, alors ça pourrait résoudre un problème de la cosmologie d'aujourd'hui, qu'on appelle le problème de la matière noire. C'est-à-dire qu'on voit que les galaxies qui sont mues par la gravitation ont des dynamiques qui ne sont explicables que s'il existe une matière supplémentaire par rapport à celle que nous voyons, une matière invisible, qu'on appelle la matière noire, et dont nous savons que si elle existe, elle n'est pas constituée des particules habituelles. Elle n'est pas faite d'atomes ou d'électrons ou de protons, de neutrons comme la matière ordinaire. C'est autre chose. Et parmi les candidats possibles pour constituer cette matière noire, il y a les particules prédites par Majorana. Et donc ça serait, si c'est confirmé, et on le saura peut-être dans quelques années grâce aux expériences qui démarrent ces jours-ci au CERN, si c'est confirmé, ça voudrait dire que Majorana a résolu dans les années 30 un problème théorique qui ne se posait pas à l'époque, on ne parlait pas de matière noire à l'époque, et ça serait dans l'histoire des idées un événement assez singulier.
Donc il était absolument en avance sur son temps. Mmh. Alors, Paul Dirac parlait de Werner Heisenberg, Majorana et lui se sont rencontrés, puisque le physicien italien est allé le voir à Leipzig en 1933. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Étienne?
En fait, Majorana refusait de beaucoup voyager, il ne voulait pas aller à l'étranger, il voulait même très peu publier. Mais en 1932, il a compris avant tout le monde que les Joliot-Curie, qui travaillaient ici à Paris, avaient découvert une nouvelle particule sans se rendre compte. Et cette nouvelle particule, c'est le neutron, un des constituants du noyau. Et Majorana a tout de suite compris que l'existence du neutron, qui était donc confirmée, était le signe qu'il existait dans le noyau une nouvelle force, qu'on a appelée la force nucléaire. Et il va en proposer une description théorique, qu'il va refuser de publier, mais Fermi, donc en quelque sorte son patron, remarque qu'un autre physicien, Heisenberg, le physicien allemand, a eu à peu près les mêmes idées et convainc Majorana d'aller collaborer en Allemagne avec Heisenberg, puisqu'il a là une sorte d'alter ego qui a été capable de forger les mêmes concepts que lui, ce qui est le signe qu'ils ont une sorte d'affinité intellectuelle qui devrait être féconde.
Et c'est Heisenberg qui publie.
Alors, en janvier 33, Majorana va à Leipzig, où il va rester pendant 6 mois, collabore avec Heisenberg, et non, il publie un article en allemand, qui est l'acte de naissance de la physique nucléaire, qu'il co-signe. Donc là, l'article est signé par Heisenberg et Majorana. Et en effet, quand il écrit à ses parents, Majorana a l'air d'être tout à fait séduit par Heisenberg. Ils ont l'air d'avoir une relation très amicale. Et puis, il va se passer quelque chose pendant ces 6 mois, que personne n'a vraiment identifié. Mais ça va provoquer chez Majorana une sorte de fêlure psychologique qui va faire que quand il va retourner à Rome en août 1933, il ne sera plus le même homme. Il sera beaucoup moins jovial, beaucoup moins philanthrope, et il va rester dans le domicile de ses parents dans une chambre où il vit un peu comme un clochard. Il ne se rase plus, il se laisse pousser les cheveux, il n'a plus de vie sociale, il ne reçoit pas de visite. Et il va rester là pendant 4 ans. Alors, dans beaucoup d'ouvrages le concernant, on dit qu'il était en dépression, mais en réalité, il était très actif, au sens où il a énormément travaillé. Simplement, il n'a rien publié. C'est seulement longtemps après sa mort ou sa disparition qu'on a découvert les milliers de pages qu'il a laissées et qui correspondent aux travaux qu'il a menés à cette époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pour lui? Alors, pour l'Allemagne elle-même, on le sait, c'est Hitler qui arrive au pouvoir. C'est l'entrée dans le nazisme. Alors, il a des phrases assez ambiguës, d'ailleurs, sur le nazisme à l'époque.
Et sur les juifs.
Et sur les juifs. Il a une interprétation sociologique du problème juif, comme on l'appelait à l'époque. Mais on peut pas dire pour autant qu'il était antisémite, ni qu'il était philo-nazi. Mais il subit là-bas un traumatisme, peut-être lié à la mort de son père, peut-être lié à une maladie qu'il commence d'avoir, une sorte de gastrite aiguë. Peut-être qu'il a été déçu du fait que l'amitié qu'il a pour Heisenberg ne soit pas aussi bonne qu'il avait pu l'imaginer ou l'espérer. Bref, quand il rentre, c'est vraiment plus le même homme. Et donc, moi, je dirais qu'il y a deux Majorana. Il y a celui d'avant 1933 et puis il y a celui d'après. Et ce sont deux personnages extrêmement différents.
Alors certains romanciers comme le sicilien Leonardo Sciascia ont dit que Majorana avait disparu parce qu'il avait peur des applications possibles de la fission nucléaire et de la création de la bombe atomique. Or, d'un point de vue historique, c'est impossible, on le sait aujourd'hui. Écoutez le physicien nucléaire Bernard Fernandez interviewé sur France Culture en 2013.
Fermi, à la suite de la découverte par Frédéric et Irène Joliot-Curie de la radioactivité artificielle, bombarde toutes sortes de noyaux avec des neutrons et découvre un tas de d'isotopes radioactifs. Et quand il bombarde l'uranium, il trouve des noyaux radioactifs qu'il n'arrive pas à identifier. Il n'arrive pas à les identifier parce qu'il fait ça par chimie et qu'il pense que les noyaux qu'il a formés en ajoutant un neutron, c'est un noyau proche de l'uranium. Et ça, il n'y arrive pas. Et il pense que peut-être c'est un noyau qui n'existe pas, un transuranien, un noyau plus lourd que l'uranium. Donc il annonce ça avec une grande précaution, parce que Fermi était un homme extrêmement précautionneux, il ne voulait pas annoncer quelque chose sans en être sûr. Et effectivement, Hilda Nodak, chimiste allemande, dit « mais on ne peut pas annoncer ça, il faudrait avoir essayé de le comparer à tous les noyaux de la création ». Alors ça paraissait quand même bizarre, et puis elle avait effectivement dit « après tout, peut-être que le noyau d'uranium se casse en deux ou trois, etc. » Mais à l'époque, personne n'y a cru. Alors, ça paraît très extraordinaire que Majorana, qui a sans doute eu vent, enfin a lu cet article d'Hilda Nodak, et puis de là anticiper non seulement la fission, mais aussi le fait que c'est très compliqué le phénomène de fission, parce qu'il y a des neutrons qui sont émis, on peut prévoir qu'il y a certains neutrons qui sont émis, mais combien est-ce qu'ils vont être absorbés, ça, c'est tellement compliqué que je pense que sans données expérimentales c'était quasiment
impossible.
Voilà, Majorana, on avance sur son temps, mais pas au point d'avoir anticipé la bombe atomique, Étienne Klein.
Oui, alors, oui, moi je suis d'accord avec mon ami et collègue Bernard Fernandez, qui a beaucoup étudié cette période de l'histoire. Majorana, il a compris que le neutron avait été découvert par les Joliot Curie avant tout le monde. Mmh. Donc il est capable quand même d'interpréter les résultats des expériences mieux que les autres, bien qu'il soit théoricien. Donc on pourrait imaginer que puisque Fermi a fait de la fission de l'uranium en 1934, sans s'en rendre compte, de même que les Joliot Curie avaient découvert le neutron sans s'en rendre compte.
Oui.
Peut-être qu'il a compris qu'il y avait de la fission. Ça, c'est possible. Hilda Nodak l'avait suggéré. Bon, à l'époque, Majorana ne collaborait plus avec les gens de Fermi parce qu'il restait chez lui. Bon, peut-être qu'il était informé des résultats, mais même cela n'est pas sûr. Alors, on peut imaginer que, vu sa puissance intellectuelle, il a compris qu'il se passait de la fission. Mais pour qu'il y ait une bombe atomique, il faut non seulement qu'il y ait de la fission, mais il faut qu'il y ait une réaction en chaîne. Et pour que la réaction en chaîne soit possible, il faut savoir que des neutrons sont émis par la fission qui eux-mêmes vont pouvoir cogner d'autres atomes d'uranium, provoquer d'autres fissions, etc. Et cela, franchement, qui pouvait l'imaginer avant que ce soit identifié par des expérimentateurs en 1938 à la fin de l'année? Par les Joliot Curie, d'ailleurs.
Mais en revanche, vous dites dans votre livre, là où Chacha a peut-être raison, Leonardo Chacha, c'est que Majorana s'est peut-être quand même posé la question de la responsabilité du scientifique dans ce contexte
donc,
de pré-guerre.
Donc la question que Chacha pose, qui est la question de la responsabilité du chercheur, est une question, évidemment, qu'on ne peut pas éviter, qui est très difficile. Est-ce que c'est le chercheur qui découvre ce qu'il ne sait pas qu'il va découvrir? Parce que faire une découverte, c'est être surpris par ce qu'on trouve. Est-ce qu'il est responsable de la découverte, de l'usage qui en sera fait, ou est-ce que c'est la collectivité, la suite de ceux qui vont s'intéresser à son travail qui est responsable? C'est quand même une question très délicate, est-ce que la responsabilité est individuelle ou est-ce qu'elle est collective? Mais prendre Majorana comme exemple historique de cette question me paraît pas un très bon choix, parce que dans les écrits de Majorana, dans sa correspondance notamment, on ne trouve à aucun moment de crainte à propos de ce que la physique pourrait devenir. D'autre part, s'il avait vraiment pressenti la bombe atomique, et donc les dangers de la physique, est-ce qu'il aurait accepté d'être professeur à Naples en 1937? Est-ce qu'il aurait enseigné la physique nucléaire s'il avait eu peur de ses applications? Et puis, quand on a vraiment peur qu'un événement advienne et qu'on peut l'éviter, on donne l'alerte, on ne disparaît pas.
Et d'ailleurs, on lui refuse la chaire de physique théorique à Rome en 37, et c'est pour ça qu'il part à Naples?
Il y a un poste qui est mis au concours, qui n'est pas pour Naples, qui est pour une autre ville, et il est donné à quelqu'un d'autre, à un autre physicien du groupe. Mais comme il a un dossier tellement incroyable, il y a très peu d'articles, parce qu'il a peu publié, mais c'est des articles extrêmement puissants, donc le jury crée une chaire supplémentaire pour lui à Naples. Et il va commencer d'y enseigner en janvier 1938, et ça va durer 3 mois, il va donner une douzaine de cours, et puis au mois de mars, le 25 mars, il décide de disparaître, 2 jours après avoir donné son dernier cours, qui s'est très bien passé.
Il donnait des cours à des filles d'ailleurs.
Ah oui, ça c'est une grande découverte pour moi, c'est que les étudiants qui étudiaient la physique théorique, à Naples, en Italie donc, dans les années 30, étaient des étudiantes. Alors moi j'ai demandé comment c'est possible dans toutes les autres universités. En France, en Allemagne, en Angleterre, on ne voit que des hommes sur les bancs des facultés de physique. Et en Italie, c'est des femmes. J'ai pas eu d'explication.
Étienne Klein, vous citez une phrase de Bob Dylan en exergue du chapitre intitulé « Tragédie quantique ». « Dans une autre vie, j'aurais pu être toi », disait-elle. « Ouais, mais dans une autre vie, j'aurais été quelqu'un d'autre ». Et comme ça fait toujours plaisir d'écouter Dylan, on écoute « I want you » sur RFI.
Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Bob Dylan, I want you sur RFI. Étienne Klein, dans votre livre En cherchant Majorana, vous reproduisez plusieurs lettres de Majorana, ses dernières lettres. Alors celle qu'il écrit à Carelli, le directeur de l'Institut de physique de Naples, et puis celle qu'on retrouve datée du 25 mars adressée à sa famille. Écoutez ces deux textes lus par Pierre Chaffonjon.
Palerme, le 26 mars 1938. Cher Carelli, j'espère que mon télégramme ainsi que ma lettre te seront parvenus ensemble. La mer m'a refusé et je retournerai demain à l'hôtel Bologna, en voyageant peut-être sur le même bateau que ce mot. J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. Ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, car mon cas est différent. Je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. Ton dévoué est Tore Majorana. Naples, le 25 mars 1938. Je n'ai qu'un seul désir, que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de 3 jours durant, un signe de deuil quelconque. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi. Votre dévoué est Tore.
Ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen. Étienne Klein, Majorana était un grand lecteur de littérature, de Pirandello et d'Ibsen notamment.
De Shakespeare aussi, pas des grands auteurs. Alors, c'est vrai, la lettre qu'il écrit le 25 mars à sa famille, vous pouvez porter le deuil si ça vous fait plaisir, mais pas plus de 3 jours, que la coutume à l'époque c'était 9 jours, donc ça veut dire un deuil bref, ça veut dire que il annonce pas un suicide, mais une sorte de disparition. Le même jour, il écrit à Carelli, le patron de l'Institut, qu'il a pris une décision irrévocable, qu'il a décidé de disparaître. À Palerme, le lendemain, il écrit cette lettre qui a été lue, dans laquelle il dit qu'il va finalement rentrer, mais qu'il va cesser l'enseignement. Je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen, dit-il. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est une femme lettre... suicidée, alors, comme Hedda Gabler.
Moi, je me suis obligé à lire tout le théâtre d'Ibsen. Et dans le théâtre d'Ibsen, les femmes qui se suicident sont des épouses. Ragazza, en italien, c'est le mot qu'il utilise. Ouais. C'est jeune fille, donc femme non mariée. Les jeunes filles dans Ibsen ne se suicident pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des gens m'ont dit, mais oui, mais ragazza, en italien, ça peut aussi vouloir dire jeune femme mariée. Ou récemment mariée. Alors là, on tombe dans les cas plus classiques, Hedda Gabler, etc., qui, en effet, se suicident. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? On sait pas. Donc, toutes les lettres de Majorana sont ambivalentes. Au sens où on peut les interpréter de différentes façons, un peu comme s'ils s'étaient transformés en particules quantiques.
Mmh, c'est ça.
C'est-à-dire, il superpose des possibilités en lui-même, de sorte qu'aucune interprétation franche ne peut tenir longtemps.
C'est un chat de Schrödinger, il est vivant et mort à la fois.
Oui, par exemple, quand il envoie le télégramme de Palerme disant « finalement, je renonce à disparaître, je rentre », celui qui reçoit le télégramme reçoit en même temps la lettre de la veille, dans laquelle il annonce sa disparition. Donc Carelli, qui reçoit le télégramme et la lettre en même temps, reçoit un chat de Schrödinger, c'est-à-dire un Majorana vivant, plus un Majorana qui annonce sa mort.
Alors pour vous, Étienne Klein, aujourd'hui, après avoir mené cette enquête, quelles sont les hypothèses qui tiennent?
Écoutez, moi j'ai travaillé sur ces articles scientifiques et ces travaux parce que mon souci, c'était que l'homme ne soit pas masqué par sa disparition. Alors, tout le monde parle de la disparition de Majorana, mais peu disent ce qu'il a fait en physique. Donc j'ai travaillé là-dessus, je suis allé voir les archives, et en fait j'ai été pris, comme tout le monde, par la disparition. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quand on voit des photos de Majorana, il y en a très peu, on cherche dans son regard l'explication de sa disparition, comme si on le regardait comme étant quelqu'un qui a toujours voulu disparaître. Du coup, j'ai repris le bateau, le même que lui, à la même date à peu près. Première chose, je ne pense pas qu'il se soit suicidé. Rien n'indique qu'il était suicidaire. Il avait la main plutôt en forme, il était content de son enseignement, il l'a écrit d'ailleurs à son ami Gentile quelques jours avant de disparaître, donc il n'était pas suicidaire et je ne pense pas que les lettres qu'on a entendues tout à l'heure sont des lettres d'une personne qui va se suicider le soir même. En revanche, je pense qu'il n'a pas longtemps survécu à sa disparition, parce que s'il avait longtemps survécu à sa disparition, on l'aurait vu, reconnu, et des gens auraient fini par parler.
Alors,
reste l'hypothèse du monastère... Il se serait réfugié et aurait fini par mourir assez rapidement. Bon, les archives du Vatican, lorsqu'elles seront ouvertes, nous le dirons peut-être. D'ailleurs, je crois qu'une démarche a été officiellement adressée au pape François pour qu'il ouvre les archives du Vatican. Il y a un dossier Majorana au Vatican. On peut en consulter les premières pages, mais pas les dernières, qui sont top secret. Pourquoi? Ça sous-entend sans doute que quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. La question fondamentale, si vous voulez, c'est quand est-ce que qu'il a décidé de disparaître. Mmh. Est-ce que c'est 3 jours avant, quand il va vider son compte en banque et récupérer son passeport? Ou est-ce que c'est un projet qu'il a fomenté il y a très longtemps, 10 ans avant? Et vous trouvez des arguments pour dire que c'est le premier cas qui se défend et des arguments pour dire que c'est le second cas. Et je pense que le jour où on saura quand il a décidé de disparaître, on pourra garder certaines hypothèses et en éliminer d'autres.
Comment la famille de Majorana vit-elle encore 3 quarts de siècle après cette disparition? Parce que vous avez été en contact avec ses neveux, notamment un certain Ettore Majorana, oui, qui un jour vous écrit, vous envoie un email.
Oui, c'était un choc pour moi. J'avais donné une conférence à l'école normale de Paris là sur les travaux scientifiques de Majorana. Et quelques jours plus tard, je reçois un mail d'Ettore Majorana et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais calculé qu'il aurait dû avoir 105 ans, donc j'étais un peu étonné. Et en fait, c'est son neveu, Ettore Majorana Junior, qui est physicien, qui était passé à l'école normale pour rencontrer des collègues et qui avait vu l'affiche annonçant ma conférence. Et c'est ainsi que j'ai pu le rencontrer, nous sommes devenus amis. Il est donc le neveu de Majorana, il a à peu près mon âge. Et il m'a beaucoup aidé à rencontrer donc d'autres personnes, notamment ses propres cousins, donc d'autres neveux de Majorana. Je les ai tous rencontrés. Tous sont extrêmement marqués par ce destin qu'ils portent en eux d'une certaine façon. Surtout Ettore, qui porte le même prénom que le physicien dont on parle. Ils ont des interprétations assez différentes. Et ils sont surtout très agacés par toutes les personnes qui écrivent des livres sur Majorana et qui projettent leur fantasme sur ce personnage ou bien utilisent Majorana pour défendre leur propre thèse sur sa disparition, quitte à faire preuve de légèreté historique. Et donc la famille est assez agacée de voir que tous les 6 mois, une nouvelle thèse réapparaît ou apparaît. Majorana, en Italie, c'est une sorte d'intermittent du spectacle. Tous les 6 mois, il fait la une des journaux parce qu'une nouvelle hypothèse est avancée par quelqu'un.
Par une émission de télé-réalité, voilà, là, type perdu de vue.
Voilà, et la famille est fatiguée de cela, sans qu'elle soit capable de nous dire ce qui lui est arrivé. Hein. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Soit parce qu'il y aura des révélations sur ce qui lui est arrivé, soit parce que les physiciens vont trouver une particule qui porte son nom.
Voilà.
Et là, il y aura une espèce d'omniprésence de son nom... qui existe d'ailleurs déjà dans les articles de physique. Hein. Le nom de Majorana est de plus en plus cité dans les titres des articles scientifiques. Il a laissé son nom associé à toutes sortes de nouveaux concepts. Il y a le tenseur de Majorana, il y a les matrices de Majorana, il y a l'équation de Majorana, il y a les particules de Majorana, etc. Et donc c'est un nom qui risque de devenir un nom familier.
Et vous-même, Étienne Klein, n'en avez pas terminé avec Majorana, puisque vous vous préparez un film adapté de ce livre en cherchant Majorana.
Oui, mais à chaque fois que je veux l'abandonner, ça m'arrivait plusieurs fois, il se passe quelque chose qui m'oblige à m'y replonger. Quoi. C'est une espèce de puissance destinale qui me mange.
Et vous allez donc encore une fois retourner sur ces traces. Merci beaucoup Étienne Klein.
Merci à
vous. Je renvoie donc à votre livre En cherchant Majorana, paru aux éditions Les Équateurs et en poche chez Folio. Vous êtes aussi l'auteur de Il était cette fois la révolution sur les pères de la physique quantique et vous consacrez un chapitre de ce livre à Majorana. Merci également à Cécile Bonici.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Et la semaine prochaine, nous essaierons de faire le portrait de l'architecte Le Corbusier à l'occasion du cinquantenaire de sa mort. Lundi, vous retrouverez bien sûr Caroline Lachowski. À vendredi prochain.